Hey, bonjour, merci d'être ici. Donc, on vous présente rapidement. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer pour l'entretien?
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Donc, Serge et Marie-Josée de la Fondation des pompiers, comment vous allez?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, merci. Donc, je suis avec Alexandre, qui est du Comité national des jeunes, qui va faire la co-animation, ou plutôt, je suis la co-animatrice. Là,
oui, c'est ça. Bonjour.
Pour cette émission. Donc, la Fondation des pompiers, on a vraiment un lien particulier avec le SFPQ. Depuis le début, vous êtes membre, on est membre fondateur de la Fondation, on fait certains partenariats et tout ça. Donc, on trouvait intéressant de vous inviter aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Je commencerai peut-être à vous demander, c'est quoi la Fondation des pompiers exactement?
Ben, la Fondation, c'est un organisme bénévole. Ben, nous, moi, je suis bénévole. On s'occupe de ramasser des sous pour les grands brûlés, mais la partie recherche plus, puis comment je pourrais vous dire, l'équipement spécialisé dans les centres de grands brûlés. Puis on aide deux organismes qui s'appellent un à Montréal, Entraide Grand Brûlé, puis un à Québec, l'association Flamme, qui s'occupent eux directement des grands brûlés. Notre mission, c'est un peu ça. Ça a été... Historiquement, c'était on passe du début. La fondation a été fondée à cause d'un événement qui était le feu à Chappé en 1980, où il y a eu 48 décès. Et suite à ça, les pompiers se sont aperçus qu'il n'y avait pas de service pour aider les grands brûlés à s'en sortir. Donc, on a décidé de faire une loto-pompier, ça s'appelait comme ça dans le temps, pour développer deux centres de grands brûlés, un à Québec et un à Montréal. Puis suite à 5 ans de loto-pompier, où on a ramassé environ 3 millions de dollars pour ces deux centres-là, on a décidé de continuer. C'est là qu'on a fondé, en 1988, la Fondation des grands brûlés.
Parfait. Et c'est combien de personnes par année environ que vous aidez depuis votre fondation? Est-ce que vous avez un chiffre à peu près ou juste pour cette année du moins?
En moyenne, c'est 300 personnes grands brûlés qu'on a dans nos deux centres. C'est pas un grand nombre, mais on a aussi en clinique externe des gens qui reviennent pour des reconstructions, justement en clinique externe pour se faire un suivi.
L'autre point important, c'est que c'est sûr que 300, c'est pas énorme, on pourrait le voir, mais ce qui est surtout fascinant, c'est que le chiffre baisse pas depuis 30 ans.
Oui.
Avec tous les efforts de prévention qu'on fait, le nombre de brûlés aurait dû diminuer, en tout cas à tout le moins, mais dans une certaine logique, mais pas du tout. Donc, le nombre n'est pas important, mais l'importance de la fondation demeure là, ça c'est sûr.
Mais pourquoi ça diminue pas?
Il y a très peu d'explications. On se dit pourtant, hein, il y a beaucoup, beaucoup de prévention. Les pompiers, maintenant, Serge, je pourrais vous le dire. Là,
on prévoyait même une baisse durant les deux années de pandémie.
Oui.
Puis ça a été plus grand.
Il y a une augmentation.
Il y a une augmentation. Parce que les gens sont plus à la maison.
Ils étaient plus à la maison, oui.
Parce que les causes sont multiples. C'est pas juste un incendie de bâtiment qui cause qui fait que tu deviens grand brûlé. On parlait de feu de barbecue où que les gens vont rajouter un accélérant dessus et le produit s'allume. C'est là que les gens sont surpris. Puis, d'autres exemples, pour vous donner un accident de moto,
C'est les
grands brûlés qui prennent aussi soin de ça parce que le motocycliste glisse sur l'asphalte.
Il se brûle par friction.
C'est un paquet d'exemples comme ça où les barbecues.
J'y aurais jamais pensé, moi, en fait, que même les accidents de moto, là, à l'occurrence, là, c'était les grands brûlés qui s'en occupaient. Là,
La partie peau.
Pour la brûlure par friction.
Oui. Mais si par contre le motocycliste est gravement aussi polytraumatisé à plusieurs niveaux, généralement il va quand même aller au grand brûlé. Parce que maintenant on a des chefs intensivistes qui gèrent aussi très bien, c'est relativement nouveau, je dirais 10-12 ans environ, qui vont gérer aussi les cas de soins intensifs, de traumatisme important. Parce qu'avant, on avait justement ce problème-là, c'est arrivé à un pompier justement qui malheureusement a dû se tombé en bas du quatrième étage pour se sauver de l'embrasement. Et puis, ben, il a été comme polytraumatisé, même plus que brûlé. À l'époque, on l'avait emmené dans un hôpital, justement, pour premiers soins et tout ça. Puis, on avait un peu délaissé ses brûlures. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire un ou l'autre. Là. Il fallait les traiter en parallèle.
Je m'excuse, mais polytraumatisé, là, je connais pas ça là, comme terme.
J'allais demander la même chose.
OK, je m'excuse. C'est vrai que c'était pas clair. Un polytraumatisé, ben, c'est quelqu'un justement qui, avec un accident de moto, qui a tombé en bas de 3-4 étages, de multiples fractures, okay. Hémorragie interne. Donc, on dit polytraumatisme. Il y a plusieurs.
C'est pas automatiquement lié à, dû à une brûlure,
non. Ben, soit par friction ou par feu.
Un des facteurs.
Ah, OK, je comprends.
Exact. Donc, exemple, on parle toujours du motocycliste qui a eu grave collision, va sûrement avoir des membres fracturés à travers, tout ça, en plus d'avoir été brûlé s'il a été projeté sur le pavé. Ouais, c'est ça. Donc, il va quand même au grand brûlé, même ayant d'autres blessures.
Je m'excuse, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre.
Non, c'est bon.
Je vais voler une question, en fait, à Vicky, là, parce que sais qu'on s'est parlé un peu plus tôt avant de débuter le podcast, puis j'ai cru comprendre que vous aviez une petite réponse en lien avec le début, là, en fait, là, l'histoire un peu du début du partenariat. C'est cela, je m'excuse. Entre le SFPQ et la fondation, là, je sais que ça fait beaucoup de travail, là, et je m'en excuse, là, mais...
C'est correct. On a cherché, puis on a trouvé une partie de réponse. Ça a commencé justement à la fondation, au début de la fondation des Grands Brûlés. On avait besoin d'un partenaire pour nous fournir une expertise en administration que les pompiers n'ont pas. C'est de là que cette expertise-là nous a permis de développer la fondation. Puis depuis ce temps-là, votre syndicat fait partie de la fondation. Ils nous ont toujours appuyés depuis ce temps-là. Ils participent beaucoup pour faire du bénévolat. On a des membres de votre syndicat qui sont sur notre conseil d'administration qu'on apprécie beaucoup.
On salue Patrick Audy d'ailleurs, qui est sur le syndicat. Oui. Mais c'est ça, pour remettre en contexte un peu les auditeurs, parce que là, peut-être qu'ils n'ont pas compris exactement ce qu'on voulait dire. C'est que nous, on se demandait d'où provenait le partenariat entre le syndicat et la Fondation des pompiers à l'origine, parce qu'on sait comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est un partenaire fondateur et tout. Ça fait plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. On a essayé de chercher un peu les réponses à cette question. Ce fut vraiment pas évident. On a demandé autant à des gens au niveau du syndicat que de la fondation d'où ça provenait. Puis après avoir discuté avec l'une de vos collègues, Mme Tremblay, on s'est aperçu qu'on n'avait pas la réponse. Donc, ça reste un mystère. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui était dans le syndicat autrefois et qui a la réponse de cette personne qui a initié le partenariat, eh bien, je lève la main et je veux avoir la réponse. Donc, on s'excuse de pas...
Nous aussi, on aimerait ça pour le rajouter à notre historique. Oui. C'est une partie qui nous manque.
Donc, c'est aussi drôle que ça peut paraître. Je pense que vraiment, c'est un partenariat pourtant fondamental, puis c'est ça.
C'est sûr que la partie, comme je dis, visible de la fondation, c'est les pompiers.
Exact.
Tandis que c'est plus effacé, mais le partenariat est très important pareil, parce qu'il faut avoir, on ne peut pas être juste des pompiers pour faire pour mener cette fondation-là. Il faut avoir d'autres aides, puis on est content d'avoir le SFP.
Mais je pense que je parle en mon nom, puis peut-être celui du CNJ, mais je pense qu'on est très content de faire partie de vous aider dans cette mission-là. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. on est content de pouvoir participer à ce mission, mouvement, je sais pas comment on pourrait le décrire, là, mais...
Ben, ça peut ajouter à vous conforter justement dans que vous êtes... Je le dis souvent, c'est important parce que il y a un caractère unique là, dans votre partenariat avec nous, parce que il n'y a qu'une fondation qui s'occupe des Grands Brûlés. Il y en a des milliers pour le cancer, pour les enfants, et toutes les causes sont bonnes, c'est pas... Le débat n'est pas là, mais il y en a qu'une. Donc, si vous n'êtes pas là, les pompiers ne sont pas là,
Il n'y a personne pour
ces gens-là, non.
Exact. Mais je vous relance la question, Serge, mais vous êtes un pompier de carrière. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer, à vous dire un jour, moi, je vais être président de cette fondation-là? Avez-vous vu quelque chose, qui a un élément déclencheur qui a fait « OK, moi, je m'implique » ou…
Ben, disons, président, non. Il n'y avait rien qui me prédisait, que je ne prévoyais pas. J'avais jamais eu le but de devenir le président de la Fondation. Mais personnellement, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Même en tant que pompier, à Montréal, j'étais pompier à Montréal. Je me suis occupé des paniers de Noël des pompiers durant une dizaine d'années. Je suis membre aussi de la Caisse des pompiers de Montréal, de la Caisse du réseau municipal, en tant que vice-président du conseil d'administration. Puis, à un moment donné, en étant là, il y a des postes qui sont libérés à la Fondation. C'était des membres de la Caisse que j'ai pris la relève d'un membre de la Caisse à Fondation. Puis là, ben, au début, j'étais comme administrateur. Puis, à un moment donné, j'ai pris ma retraite. Et le temps, ça a bien tombé. J'étais disponible. J'ai beaucoup d'heures pour faire encore du bénévolat, étant retraité, que le poste de président s'est ouvert, que j'ai donné mon nom et on m'a élu président.
Ah, bien, félicitations.
Depuis 4 ans.
Oui,
depuis
4 ans.
Super. Mais est-ce que, dans le cadre de votre métier, je me demande, tu sais, vous avez vu des incendies, probablement, est-ce que ça vous est arrivé de côtoyer des gens, des futurs grands brûlés, si on veut, ou des gens ayant des accidents de la sorte?
Bien, sur mes interventions, personnellement, non. Je me considère chanceux parce que c'est pas quelque chose de très agréable à voir. Mais j'ai un confrère de travail qui s'est fait brûler durant une intervention parce qu'il est arrivé, il a perdu sa partie faciale et ça s'est ouvert, puis il y a eu un retour de chaleur et il s'est fait brûler dans le cou. Et il y a eu des brûlures internes au niveau. Parce que souvent, un des gros problèmes, c'est des brûlures internes. Plus que les brûlures externes qui causent des décès, mais lui, il s'en est sauvé, ça s'est bien passé.
Vous parlez du facial, là, c'est le masque?
C'est le masque. Ah, okay. C'est le masque. Tout simplement, il y a eu un retour, puis il s'est accroché avec sa lance de pompier, là, puis ça fait élever sa partie faciale. C'est ça qui a fait que la chaleur est arrivée en même temps. C'est une malchance.
Ouais.
C'est une malchance, mais c'est un risque quand même que vous prenez dans votre métier, j'imagine. Là.
Ça fait partie des risques, c'est sûr.
J'imagine.
Mais on est de mieux en mieux protégés. Maintenant, avec des cagoules, des gants de meilleure qualité aussi, là, plus malléables que jadis. Parce que souvent, avant, les pompiers se brûlaient les mains parce qu'on avait des mitaines, on avait des gants qui étaient pas très, très malléables. Puis en hiver, ben c'était pas idéal pour utiliser avec une hache, ça vient glissant. Puis là, les gens enlevaient leur gants. Puis là, il y arrivait un retour de flamme ou une montée de chaleur soudaine. Puis c'est là que tu te brûles. Toi, encore du temps, c'est pas nécessairement le feu comme tel, mais la chaleur ambiante qui fait que tu te fais brûler lors d'un incendie. C'est plutôt rare les feux, les gens brûlés directement par le feu. Il y a des réflexes assez fondamentaux qui font que tu te tasses.
J'imagine, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait un concours, je sais pas si tu as eu ça, à l'école primaire, on participait avec les pompiers, ils nous faisaient faire des ateliers pour justement nous faire de la prévention à propos du feu, de la chaleur, on devait mettre le côté de notre pompe de main pour sur la poignée de porte, en fait.
Du tout. Sur le cadrage de porte. Sur la formation, on recule de loin, là. Oui, ça s'appelait la vieille dame, savait quoi faire. Je sais pas si les plus jeunes, ça me surprendrait. C'était la publicité. Il disait aux jeunes s'ils entendaient un détecteur de fumée, parce que c'était le début des détecteurs de fumée, avant d'ouvrir la porte de leur chambre, de toucher avec le revers de leur main à la porte, à partir du haut vers le bas, de ne pas toucher à la poignée, parce qu'il y avait une place que ça pouvait être très chaud. C'est la poignée en métal,
ouais.
Que ça part de là. Puis la vieille dame, ben c'était aussi, si le feu est après toi, ben roule-toi par terre. Tu roules, puis ça s'éteint parce que tu enlèves l'élément, l'air de l'incendie, puis c'est comme ça que...
Non, j'avais pas ça, moi, dans mon...
Vous me faites
dans ma région. Je viens d'un petit village des Laurentides, alors j'avais pas ça, ou j'imagine, je l'ai probablement oublié, alors...
C'est peut-être ma mémoire qui a pas fait défaut, mais il me manque quelques détails sur, là, ça fait très longtemps quand même, là, mais on a pu l'expliquer au moins aux auditeurs.
Puis avec ça, il y avait aussi les plans d'évacuation qu'on disait aux gens, donnez-vous un point de repère à l'extérieur, dans une maison unifamiliale, où le point de repère est à tel endroit, vous sortez, Puis un coup, si les pompiers arrivent, vous pouvez dire à vos, aux pompiers qui arrivent, ben j'ai toute ma famille ou il me manque quelqu'un. C'était le but de cette prévention-là.
Alors, je confirme, je n'ai pas eu cette formation-là.
Mais au moins, Alex, tu as sûrement eu à l'école là, le déclenchement de l'alarme à feu tous les gens devaient se rassembler à l'extérieur.
On était tout le temps tellement heureux d'entendre cet exercice-là sonner que, ça je m'en rappelle, oui.
OK, ça me rassure parce que là, je pense pas que ça aurait été normal, à moins que vous...
Non, le contraire. C'est censé se faire à grandeur de la province.
Oui, c'est une fois par année, deux fois.
Au moins une fois, sinon deux.
Oui.
Souvent, qu'est-ce qui arrive dans les écoles, c'est annoncé. Les gens sont, les élèves sont... Ils savent qu'il va y avoir un test d'évacuation. Puis, souvent, une semaine ou deux plus tard, il y en a un sans avertissement. Okay. Pour voir si le temps est bon.
Ça devait... J'imagine que ça devait quand même pas être tout le temps bon. Là. Dans ma tête, il me semble que les gens ne se dépêchaient pas. Là. Ils étaient contents de quitter le cours de français ou de mathématiques.
Le but de cet exercice-là, c'est pas le temps. Oui, le temps, plus que tu sors vite, bien sûr, mais c'est s'assurer que tout le monde est sorti.
OK.
Oui, ça se met en sécurité,
De se mettre en sécurité pour être capable de faire un décompte pour après, quand les services d'incendie arrivent, de faire des recherches pour savoir si on a une ou deux personnes à chercher avant d'éteindre l'incendie, parce que notre but, c'est sauver des vies avant d'éteindre le feu.
Exactement. Je me demandais comme ça, pour revenir un peu à nos moutons, on s'est comme élargi, mais c'est super intéressant. En fait, est-ce que vous avez déjà eu des témoignages sûrement de gens justement qui sont des grands brûlés, qui ont eu recours à la Fondation pour leur aider? Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué plus qu'une autre, par exemple, j'imagine?
Ah, des histoires, oui, mais j'en ai une. J'ai emmené mon livre. C'est le mien personnel. Je ne sais pas si la caméra va le prendre. Annie Bertillon. Elle a fait un livre, c'est une grande brûlée. C'est arrivé, elle avait 8 ans. Durant des vacances en camping avec sa famille, il y avait dans son auto un contenant d'accélérant pour faire. Je ne me souviens pas du produit comme tel. Et le contenant est resté dans l'auto durant toute la journée. Et quand c'était le temps le soir pour faire un feu de camp, son père, puis elle était à côté, il a ouvert le contenant. Ça a sauté. Aucune flamme, aucune chose, mais à cause de la chaleur puis de la pression qui était à l'intérieur, ça provoquait une explosion. Puis Annie est malheureusement devenue grand brûlée depuis ce temps-là.
Et à 86% quand même. Là. 86, oui. C'est immense. Votre propre main représente 1%. Fait que faites l'exercice 86 fois et respirez. Plus beaucoup d'espace.
Ben non, c'est pratiquement l'entièreté du corps. Puis à 8 ans, on n'a pas fini de se développer. Comment ça se passe par la suite, là, quand on devient un petit peu plus vieux par rapport à...
Opération par-dessus opération, parce que les greffes de peau, encore plus dans ces années-là, la peau qui est greffée à... Comment je pourrais vous dire, elle ne s'étend pas aussi bien qu'une peau que notre peau, qu'après un certain temps, le grand brûlé est obligé de se refaire opérer pour lui permettre de grandir. Sinon, ben, le bras, il plie ou la main. C'est ça. Puis comme je dis au monde, un grand brûlé, là, c'est à vie. Faut parler de Blanny, là. Qu'est-ce qu'elle a là maintenant, mais c'est pour toute sa vie. Là. Elle a à combattre le côté psychologique pour le reste de ses jours. Là.
Le côté psychologique face aux autres, là, en aux fait, autres,
la perception. Accepter. Un, s'accepter, puis deux, accepter la personne. Parce que c'est sûr, moi le premier, là, quand j'ai commencé à Fondation, puis j'ai vu des grands brûlés, on les dévisage parce qu'on se demande qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est pas nécessairement quelque chose de. Dans nos standards, très beau à voir. Mais je vais vous dire que tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des personnes de grand cœur.
J'en doute pas, puis on n'en parle pas beaucoup du côté psychologique, puis pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, dans ce processus-là de...
Ah, c'est sûr que les soins aigus, ou que nous, on intervient plus au niveau de l'hôpital, c'est quelque chose d'important. S'il passe pas par cette étape-là, on ne les voit pas plus tard. Après, il y a la réadaptation qui se passe pour la physio et tout ça. Mais après, c'est le combat de leur vie. qui ont de s'accepter et d'accepter le regard des autres.
Il y a une question qui me vient, là, mais est-ce que la Fondation vient a un côté psychologique aussi? Oui, ils ont un département psychologie pour...
Avec les deux organismes dont Serge vous parlait il y a quelques instants, okay, oui, qu'on subventionne, qui eux font de l'aide directe. Donc, ils font principalement l'hébergement à la famille, parce que vous savez qu'un grand brûlé, là, ça ne reste pas deux jours aux soins intensifs. Là, c'est j'imagine. Des mois et des mois. Il faut calculer environ 1,5 journée par pourcentage de brûlure. Environ. Donc, si vous êtes brûlé à 60 %, on est quasiment à 120 jours, 90 aux soins vraiment aigus. Là. Donc, il y a ce parti-là. Il y a la partie support psychologique, même support à la famille aussi, parce que des fois, le patient va rester dans le coma 30 % de son temps. Et ça inquiète beaucoup la famille, tout ça. Et comment il va revivre après aussi? T'sais, bon, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et il y a aussi, effectivement, l'aide psychologique. Il y a une partie que les deux organismes aussi font, qui sont massos, qui sont... on a mis dernièrement le tatou. Ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on récupère... on maquille les femmes qui veulent.
Oui.
On fait du maquillage permanent pour essayer de recorriger un peu. C'est des artistes, les tatous. Ils font des corrections pour intégrer la cicatrice dans le tatou. Là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
J'aimerais... Est-ce qu'il y a des images disponibles sur votre site web qu'on peut voir, que les gens vont partager ou pas? J'avoue qu'il y a un côté quand même intime à ça.
Ouais, ouais, non, mais on ne voit pas les visages. Donc, c'est pas... Les photos qu'on a, on ne voit pas les visages. Donc, on ne les a pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Je vais les mettre là.
Donc, vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation des pompiers les tatous un jour, oui, éventuellement.
Honnêtement, c'est très artistique. Non, c'est tout ça, mais oui, il y a de la psychologie.
Mais en parlant du site, là, j'imagine que on peut toujours faire des dons là, en permanence. Il y a pas de date de précise pour.
Il n'y a pas de date de précise.
À telle journée où vous pouvez faire des dons, là, c'est ouvert en permanence. On va sur votre site.
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.
Je l'ai feuilleté. Feuilleté, c'est un peu drôle à dire. Hein, je l'ai regardé un peu tantôt, là, puis il me semble que oui, ça s'est bien identifié là, pour le don. Puis
les activités qu'on a aussi, parce qu'on a des activités à l'année. On essaie de répartir. Comme on vient justement de terminer un tournoi de hockey de pompiers pour la fondation. Supermané, on a réussi à ramasser 85 000 $ pour la fondation.
Oh, super.
C'est la meilleure année depuis que le tournoi existe. Mais il va y avoir un tournoi de balle. Il y a un tournoi de volleyball bientôt.
Ces tournois-là sont accessibles au public? Alors,
Pas tous.
Okay.
Il n'y a que le tournoi de balle et le tournoi de hockey. Le reste, le volleyball, la course des pompiers de Laval, la soirée, c'est accessible à tout le monde.
Alors moi, qui n'ai pas pompier, qui n'ai pas... bénévole à la fondation ou employé, je sais pas si c'est des bénévoles ou des employés, là, mais je pourrais y assister.
Vous pouvez aller... ouais, c'est ça. Lui est bénévole. moi, on n'est pas beaucoup. On n'est que trois permanents. Mais le volleyball, vous pouvez aller sur notre site. Il y a une catégorie participative, justement, où c'est bien indiqué. Vous n'avez pas besoin de n'avoir... jamais avoir pratiqué le volleyball, vous pouvez aller jouer. Il y a ça, puis il y a la course de Laval, là, 1, 2, 3, 5 kilomètres, et il y a toutes les distances. Il y a quand même beaucoup d'activités pour le public en province.
Ah, oh, super.
Moi, je dis ça, je dis rien, Alex, mais on se game-tu, puis je m'excuse d'anglicisme, là, mais on participe-tu à un des défis? On s'engage-tu?
Le volleyball, c'est mix. En plus, deux gars, deux filles.
J'adore le volleyball.
C'est du beach volleyball en plus.
Tant que je fous pas.
OK.
Sinon, je peux aller encourager. Là, je vais être à côté, je serais prête à avoir des petits fanions. Là, je vais encourager. Là,
sinon, on embarque nos deux autres responsables jeunes, Lydia et Robin. Ils ne savent pas encore, mais ils n'ont pas le choix d'accepter.
Oui, c'est deux gars, deux filles.
Ah, c'est parfait.
Je suis certain que Robin serait partant.
Est-ce qu'il reste la place? Là? Je ne sais pas.
Ah, ben oui.
Non, c'est vrai. Il reste juste la place dans le compétitif. Oh. C'est vrai.
On va se reprendre.
L'an prochain.
Dommage.
T'as l'état de pratiquer.
Ah oui. C'est ça. Il me reste un an.
Je prends en note, c'est enregistré.
Sinon, si vous passez par votre syndicat, sûrement que si on a un moment donné, on a besoin de bénévoles pour ces activités-là, parce que ça prend aussi des bénévoles, ça pourrait être intéressant.
Je vais parler pour le CNJ, mais j'imagine que si vous avez besoin de bénévoles, là, je vous inviterais même peut-être, je ne sais pas si ça se fait, mais de passer directement par nous. Là,
Ben, on peut faire les demandes si vous nous l'autorisez.
On peut faire la demande à l'instant là, si on a des membres qui veulent justement se participer. Ils ne veulent pas nécessairement faire de dons ou qu'ils veulent faire de dons. Je pense que c'est la bienvenue, mais je veux dire qu'ils veulent participer en tant que bénévole.
C'est tout aussi nécessaire.
Ils peuvent le faire, mais justement, ça va comment la recherche de bénévoles? Parce qu'on sait que c'est de plus en plus difficile pour tous les organismes. On s'entend, j'imagine que ça vous affecte également.
Oui. Oui. Oui, bien, la chance qu'on est, on est quand même 25 au conseil d'administration, que nos réseaux de contact fait nos familles. Moi, je vais parler pour ma conjointe, elle participe quand j'ai un peu de représentation. Ça arrive à quelques occasions.
Quelques fois.
C'est ça, c'est des contacts. Si on a un événement, qu'on a besoin, si on a un numéro de téléphone pour joindre, pour vous inviter, bien, ça va nous faire plaisir.
Oui, puis on ne fait pas faire des choses qui ne vous intéressent pas. Là. Souvent, quand quelqu'un nous contacte, on leur dit c'est quoi vos intérêts? Voulez-vous faire des choses de sport, clérical, nous aider au bureau ou faire des collectes? Donc, on a les quelques peu qu'on a, on a leur disponibilité, parce que c'est du bénévolat, ce n'est pas du travail. Hein, ça va effectivement selon vos disponibilités et ce que vous aimez faire aussi. Là.
Puis, mais j'imagine, toujours dans les activités, j'imagine, est-ce qu'on peut, on pourrait être démarré, comme un particulier vous contacte, puis souhaite, un citoyen, là, souhaite organiser une activité dans sa région, sa ville, son village, peu importe, là, vous contacte, vous suggère un plan, j'imagine, une idée d'activité, puis vous adhérez ou non, là, selon...
C'est rare, je vous dirais qu'on dit non. Hein. Faudrait vraiment que ce soit quelque chose de... En fait, je vois pas quoi, là. Mais si tout est bien encadré, puis tout ça, oui, puis on les aide en plus, là. Souvent, on est là au bureau pour soit les aider dans l'organisation, fournir du visuel ou les aider à chercher des commanditaires. Donc, oui, c'est autant le privé que les pompiers.
Oui. Il y a même des tournois de cartes qui se font de toc. Les pompiers font, puis
j'aurais jamais pensé à ça.
Vous êtes vraiment diversifié.
Oui.
Avec un dollar, on donne un dollar. C'est directement au Grand Brûlé. Qu'est-ce qu'on fait?
C'était d'ailleurs une des questions qu'on se demandait. Là, les dons, là, en fait, que le monde vous fait, là, ils vont où? Là?
Ils vont où? Les premiers à recevoir des sous de la Fondation, c'est les deux centres des Grands Brûlés. Celui du CHUM à Montréal et du CHU à Québec. Ouais, merci. c'est les deux places qui reçoivent 80% de nos dons qu'on fait. Ensuite, il y a, on pourrait, les deux organismes qu'on vous a parlé tantôt, Entraide, Grand Brûlé et Flamme à Québec aussi, on les subventionne et avec eux, on subventionne aussi un camp pour les jeunes Grand Brûlé, un camp estival qui dure une semaine. Ça, c'est notre côté direct avec les Grands Brûlés qu'on va voir à chaque année.
D'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre,
c'est correct.
Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là, du camp?
Mais le camp, habituellement, ça dure une semaine. C'est à la fin du mois d'août, trois quarts du temps, parce que c'est la fin des camps de jour. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les jeunes qui ne sont pas Grands Brûlés sont sortis du camp, je vous donne un exemple, là, le camp Edfi dans les Laurentides, la dernière semaine, ben, on prend une semaine pour les jeunes, mais on invite aussi les frères et les sœurs des Grands Brûlés, des jeunes Grands Brûlés. Ils passent une semaine là, ils font des activités par rapport à prévention, puis ils s'amusent comme des enfants. Et il y a une journée dans cette semaine-là, ben, souvent le service d'incendie de la ville vient faire un tour pour montrer les camions, faire des parcours. Puis nous, on se présente là pour regarder comment ils ont aimé ça. Mm-hmm. Puis on leur donne un chandail, puis des petits cadeaux. Puis on entend parler par le presse. C'est très apprécié par les jeunes.
Puis on prend la peine de le faire en dehors des autres camps parce qu'on veut, généralement, à cet âge-là, ils sont, on va, avec Entraide et Flamme, on va les en réinsertion scolaire, si on veut. On parlait tantôt du psychologique. Mm-hmm. Il y a des façons de, quand un enfant, surtout au visage, mais un petit peu partout, si les enfants sont gravement brûlés, il va avoir préparation avec le professeur, la direction, les élèves et tout. Donc, c'est comme un petit moment, juste avant l'école, où ils sont juste avec des gens comme ça, où ils n'ont pas à se préoccuper de rien, puis on veut pas qu'ils soient en interaction tout de suite avec des autres gens. Pour la plus, il y en a qui ont déjà passé par là, mais on a, entre guillemets, nos, malheureusement, nos nouveaux là, petits bourrelets. Donc, ça les met un petit peu en confiance avant la réinsertion
scolaire. Ça doit être bizarre dans les classes ou des cours d'école là, pour un enfant, mais de, qui est nouvellement, c'est drôle à dire, là, mais qui est nouvellement grand brûlé, là. Ça doit être tellement dur. Je ne voudrais pas être à leur place. Là.
Mais le camp de jeunes, moi, que j'avais remarqué, les plus vieux qui sont là depuis 2-3 ans, souvent durant la semaine, ils vont parler aux plus jeunes. Mm-hmm. Puis leur expliquer un peu c'est quoi les étapes, de qu'est-ce qu'eux ont vécu. Puis ça, c'est une des... On parle du psychologique, je pense que ça aide pas mal les plus jeunes.
C'est une belle richesse.
C'est des mentors un peu. Oui. Ils sont capables de partager leur expérience.
Ils nous demandent de... Même parce que le camp, c'est jusqu'à 18 ans, ben 17 ans. Ils nous demandent même à 18 ans s'ils peuvent revenir et donner un coup de main. Que, on essaie.
ils deviennent bénévoles.
Oui.
Ouais. Ben, bénévoles.
Bénévoles.
C'est fou. Puis pour un enfant, c'est... Il faut beaucoup de résilience, je pense. D'un, il y a un accident qui lui arrive, ça lui fait mal, mais aussi, c'est d'apprendre à vivre avec ça, avec la différence. On sait que, justement, Alex en parlait tout à l'heure dans les cours d'école, quand t'es différent, c'est pas toujours évident. Savez-vous comment ça se passe? Est-ce que les jeunes, normalement, ils font preuve de compassion ou on voit qu'il y a plus de
gars généralement, ça va assez bien. Oui, il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours un élève qui va être, peu importe ce qui le motive, qui va être méchant ou que... Mais je vous dirais que généralement, justement, l'intégration est tellement bien préparée. Les professeurs, la direction, ils montrent des photos avant de d'autres personnes qui ont été brûlées, puis ils expliquent et tout ça. Mais oui, sûrement que ça l'arrive, c'est sûr.
C'est sûr. En plus, ben, il explique dans les photos les vêtements compressifs parce que un grand brûlé va porter durant des années des manches compressives, même il y en a, c'est sur la
tête. Il y en a que c'est des cagoules, oui.
Des cagoules ou des jambes. Mais l'avantage qu'on est rendu en 2022, les tissus sont plus colorés qu'avant quand ils étaient juste beige.
Beige ou noir. Avec ta cagoule noire, c'était comme
ça. Il devait faire choix avec une cagoule noire l'été, là.
Toujours. Ah, c'est quelque chose. Puis en plus, un grand brûlé, il faut savoir, ça respire pas beaucoup. Hein?
Non.
C'est un peu notre peau, c'est notre thermostat, dans le fond. Là. C'est ce qui fait qu'on réussit la transpiration, mais il y en a plus quand on est brûlé. Donc, il faut faire attention justement aux excès de chaleur, au froid. Fait que oui, c'est plus compliqué. C'est compliqué à gérer.
Puis les greffes de peau, c'est quoi? Et par exemple, je sais que si on a une greffe de gencive, des fois, on peut utiliser notre propre peau au palais ou encore, ça peut être une greffe de peau de cochon, si je me trompe pas. Là. Mais
les gencives, je sais
ou
pas.
Ou en tout cas, quelque chose comme ça, je m'excuse si je me trompe, mais pour une personne qui est grand brûlée, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher comme tissu pour remplacer la peau?
C'est la peau qui n'a pas été brûlée.
C'est ça, sa peau.
À sa propre peau.
Y a-t-il du synthétique qui existe?
Oui.
Ben, ça fait partie des recherches là, dont Serge vous parlait tantôt.
Une des recherches qu'on fait, c'est à Québec, ça se passe au laboratoire LOEX, à côté du CHU de Québec. Ils font de la culture de peau. C'est réellement le but de la chose. Puis ils font de la première couche. Là.
L'épiderme.
L'épiderme. Puis ils sont capables de le reproduire. Puis là, ben, ça prend 16 jours à faire un 6 pouces par 4 pouces d'épiderme pour après la mettre sur la personne. Et maintenant, depuis peu, on fait aussi de la peau bilamidée parce qu'il y a le derme aussi, qui est une grande avancée parce que on parle de respiration. Quand que la peau bilamidée va être implantée, ça respire un peu plus. On a deux couches.
La cicatrisation est meilleure aussi.
On est loin de la télévision. Des émissions qu'on pourrait écouter à la télévision. Là. Oui. On est loin de là.
Dans la réalité, oui.
Oui.
Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que la peau... moi, j'ai toujours demandé pourquoi on peut se faire transplanter un foie. Puis, tu dis, mais,
on ne
peut
pas prendre la peau de quelqu'un d'autre?
Non. Non, c'est pas compatible.
Il y a trop de... Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a trop de codes génétiques. Il faut savoir, avant de travailler là, il y a bien des choses que je n'avais pas réalisées. La peau, c'est un organe, on l'oublie. Puis c'est le plus grand organe du corps, donc c'est celui qui a le plus de codes génétiques. Donc, je peux pas vous donner ma peau parce qu'il y en a trop. Le système n'arrive pas à... Donc, on pourrait vous donner des médicaments anti-rejet, mais c'est 100% un cancer assuré. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que
donc,
ça vaut...
Donc, on
ne
règle pas le problème. Même si on prenait, par exemple, je sais pas, je prends la peau de ma mère ou d'un membre de ma famille, génétiquement, ça fonctionne
ça
pas.
Ça fonctionne pas plus, non.
Il y a trop de facteurs différents.
Oui.
Ouais.
Qui fait qu'il y a un rejet.
C'est quand même compliqué, là, on y pense pas, mais c'est...
C'est très, très, très compliqué.
C'est très compliqué.
Mais ce que Serge parle, c'est super, parce qu'avant, la culture de peau, c'est quand même une bonne avancée, là, parce que les greffes de peau auparavant, là, quand on prenait un bout de peau sain à quelque part, puis mm-hmm. qu'on vous le mettait, le site qu'on appelle le site donneur, là, on vous créait une autre brûlure, là. Parce qu'on levait ça jusqu'à quasiment, comme il disait, l'épiderme et le derme. Donc, un peu comme friction, tu sais, quand on disait tantôt, ça vient comme rouge vif un peu, là. Fait que moi, je me souviens qu'il y a des patients à l'époque qui disaient, ça fait plus mal les greffes que les brûlures.
Oh, Seigneur, vous m'en parlez, puis j'ai mal.
Ben, parce que les brûlures, on dit au troisième degré... On sent plus rien. Les nerfs sont brûlés que...
Il n'y a plus de sensation.
Donc, c'est pour ça que le site donneur devenait plus douloureux que... Fait que ça, c'est une belle alternative. On prend, pour la culture de peau, là, on prend quelque chose pas plus gros qu'un dissous. Là.
Mm-hmm.
Puis on l'envoie au laboratoire.
Puis on donne la peau à travers le Canada. Parce qu'on a un centre qui fait le laboratoire l'OX.
Qui est le plus performant.
Qui est le plus performant.
Ici à Québec, là.
Oui, celui de Québec.
Ah oui.
Il donne jusque dans l'Ouest canadien, puis même une partie des États-Unis.
C'est sincèrement incroyable qu'on ait ça ici au Québec. Est-ce que vous savez, dans le monde, si on a des comparables ou du moins.
Dans la culture de peau, je ne sais pas s'il y a des comparables.
OK.
Puis on est justement en train de vouloir l'agrandir, ce laboratoire-là, pour avoir des salles blanches pour faire. Mm-hmm. Plus de recherches encore, mais ça coûte beaucoup, 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 beaucoup de sous.
Est-ce que vous avez d'autres moyens que la Fondation pour financer ces recherches-là ou c'est uniquement la Fondation qui a les dons?
Le LOEX, vous voulez dire?
Oui.
Ah, le LOEX, oui.
C'est parce que nous, on est comme pour le LOEX, on donne un montant d'argent pour être capable, mais ça amène d'autres fondations ou d'autres organismes à amener. Nous, on est juste... comme une carte de visite, on garantit que ça va aller pour les grands brûlés, puis ça va aller juste pour ça,
okay.
Que souvent, ça va aider beaucoup, beaucoup les chercheurs.
Il va y avoir d'autres donateurs, oui. En fait.
Mais là, c'est un peu comme une roue qui tourne. Hein. Oui. Souvent, soit le RCIM de recherche ou le CRIC, ils attendent de voir. Donc, quand justement, on donne un bon montant quand même, ils font comme OK. Là, souvent, après ça, ça part parce que c'est des sommes. Astronomique, là, on parle de 26, 30, 35 millions par année. Là. C'est fou.
C'est
là.
Incroyable. C'est vraiment intéressant.
Mais
j'ai peut-être. Oh, Alex,
moi, j'ai une petite question.
Oui,
là, en fait, là, on va aller dans le vif du sujet. Là, puis j'imagine que quand
OK,
même
tu t'en plusieurs... allais. On avait les grands esprits se rendent compte. Ouais, là, je pense okay. qu'on s'en allait dans le même
J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Là. En fait, là, bien sûr, c'est en lien avec votre calendrier des pompes. Là, j'ai vu également que sur votre site, vous avez aussi des cartes de vœux personnalisées.
Oui, personnalisées, personnalisables, parce que vous pouvez faire effectivement. Oui,
okay. J'ai vu ça ce matin. Là. Alors, mais votre calendrier, moi, la question que je me pose, là, c'est en fait, je comprends l'idée de prendre sa fondation des pompiers, on prend des photos de pompiers, mais pourquoi les faire, je sais pas comment le dire, comment les dévêtir. J'imagine que c'est pour la vente. Là. Il doit y avoir un lien avec la vente, mais puis honnêtement, je vais être franc, là, c'est pas...
Moi, Alex, je suis sûr que c'est le meilleur moyen de financement.
Ah, ben moi, j'en achète un.
Le
alors,
plus lucratif, du
moins. Moi, j'en achète un, alors c'est juste, ça ne me déplaît pas du tout. Mais c'est en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il... J'imagine qu'il peut avoir... Il doit avoir aussi une contrepartie. Là. Il doit avoir du monde qui doit être contre ça, mais non du tout.
Oui, parce que peu importe on est qui, on fait quoi, on peut pas plaire à 100%. Donc, ça serait vous mentir de dire que tout le monde fait comme « wouhou ». Non, certainement. Puis je vous dirais qu'à l'inverse, Cette année, il était complètement habillé parce qu'on faisait un remerciement au métier d'urgence pour la COVID. Donc, on a élargi médecins, ambulanciers, policiers, puis on a eu plus de plaintes.
Ah oui.
Ah oui.
Parce qu'il était habillé.
Parce qu'il était habillé, il y avait un petit peu trop de madame. On a eu plus de plaintes.
Ah, ah oui, c'est quand même.
Je suis surpris. Honnêtement,
ouais.
Je suis tellement surpris de la.
On avait eu la critique une couple d'années que. Il fallait les rhabiller. Puis c'est,
les ben, avant ça,
on les rhabille, ouais. Mais plus qu'on les rhabille, moins on en vend.
Ah. Ouais, oui, c'est ça.
Alors, c'est surtout, en fait, pour la première question qui était un peu floue, là, c'est surtout pour la vente. Là, en
ben,
fait,
ah, ben oui, on ne se comptera pas d'histoire, tout à fait. Oh, ouais. Tout à fait. Il faut le prendre que c'est pas. Dans ce cas-ci particulièrement, on a d'autres activités de collecte de fonds qu'on parlait tantôt. Là. Cette activité-là, il faut vraiment, malheureusement, mais heureusement, vous allez voir. Il faut vraiment le prendre comme un produit marketing.
Oui.
OK.
C'est pas... c'est un outil de levée de fonds, mais il faut, nous, d'abord, le marchandiser comme un produit de marketing. Parce que les autres, il y a quelques services qui font des pompiers, qui ont fait des calendriers, excusez-moi, de camions, ils en vendent 200, tu sais, je veux dire...
Ouais.
Ça n'a pas la même valeur.
C'est pas le calendrier de la fondation.
Non, c'est ça. Fait qu'on on le pense vraiment comme un produit indépendant du reste, mais pas entièrement indépendant non plus, là, parce que c'est des pompiers, puis l'argent va 100% à la fondation.
Je comprends.
Mais on le pense pas comme nos autres collègues de fonds.
Oui.
Eh bien,
c'est son... réellement des pompiers.
Oui, c'est des vrais pompiers. On s'est fait déjà poser la question.
C'est pas des mannequins, c'est réellement des pompiers de toute la province.
Ça arrive souvent. Oh, c'est pas des vrais. Non.
C'est des vrais, on confirme.
Il faut. Sinon, on prend pas, là.
Ah, ben, ça serait mentir, en fait.
Oui. Ben, tout à fait. Comme cette année, là, pour la COVID et tout, on est allé chercher un médecin de l'unité, le chef plasticien. On est allé chercher un vrai policier de la SQ, un vrai ambulancier chef. À Urgence Santé, là, non, on n'a pas fait, on ne les a pas juste habillés en ambulancier, là, non.
Hey, Marie-Josée, Serge, ça a mis fin, mais je vous remercie beaucoup de vous avoir déplacé. Ça a passé vite, cette conversation-là.
Tellement vite. J'aurais pu continuer encore longtemps.
Ben oui, on vous aurait écouté encore pendant une heure, mais sincèrement, merci pour qu'est-ce que vous faites. C'est vraiment une belle mission, puis j'espère que ça va avoir sensibilisé nos membres un peu plus à c'est quoi la Fondation des pompiers, puis on vous invite à aller sur leur site web fondationdespompiers.com.ca pour aller donner un don ou encore si vous voulez participer en tant que bénévole, ça vous a sensibilisé, c'est tellement une belle cause. Donc,
ou s'il y a d'autres questions sur le calendrier ou sur autre chose,
on va répondre. Ça va nous faire
merci
plaisir.
À vous.
Merci
beaucoup. Merci de nous avoir reçus.
Vous pouvez même nous réinviter, on va revenir.
Avec plaisir.
Ça va faire plaisir de vous réinviter.